des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission très spéciale puisque nous ne recevons pas trois écrivains, mais un seul écrivain qui en vaut au moins trois. Cet écrivain, c'est l'un des plus grands écrivains contemporains et c'est aussi l'un des plus savants. Comme titulaire de la chaire de sémiotique et directeur de l'école supérieure des sciences humaines à l'université de Bologne, il nous a guidés à travers les vertiges de la science littéraire avec La structure absente ou Traité de sémiotique générale ou encore Lector in fabula qui s'intéressait au rôle du lecteur dans la réception d'un texte littéraire. Comme romancier, il nous a fait découvrir que pour cacher un texte, on était prêt à tuer dans les abbayes médiévales avec le nom de la rose et plonger dans les arcanes d'un plan mondial pour diriger le monde avec le pendule de Foucault. Plus besoin d'indices, vous avez tous et toutes reconnu Umberto Eco qui nous fait la joie d'être avec nous cet après-midi pendant une heure. Bonjour Umberto Eco.
Bonjour Carlo.
Alors d'abord une première question, on dit professore ou dottore?
Mais vous savez, en Italie, tout le monde est dottore, pourvu qu'il ait une voiture à garer. S'il s'agit du Mercedes, alors il peut devenir même architecte ou ingénieur. Donc, dottore, c'est une marchandise pourrie.
D'accord. Donc, on dira professore.
Vous pouvez siffler.
Voilà, je peux siffler. Je préfère, plutôt que de siffler, dire professore Umberto Eco. Alors, Umberto Eco, nous allons avoir l'occasion de prendre du temps avec vous, ce temps des écrivains qui vous est consacré, d'autant que vous publiez un nouveau roman, Numéro Zéro, chez Grasset, traduit par Jean-Noël Schifano. Un roman qui m'a absolument fasciné, parce qu'on ne sait pas, à mesure qu'on en tourne les pages, s'il nous vaccine à vie contre la paranoïa, ou s'il nous invite au contraire à en humer de temps en temps, pour notre propre salut, le romanesque parfum. En effet, de quoi est-il question dans Numéro Zéro? Eh bien d'une bande d'incapables qui sont engagés par un homme d'affaires pour fabriquer un journal qui ne sortira jamais et qui est simplement destiné à montrer aux ennemis de l'homme d'affaires dont nous venons de parler ce qu'il pourrait révéler contre ses ennemis si son journal venait à sortir. Alors on suit l'élaboration abracabrantesque de ce journal et en même temps la vie des journalistes recrutés, notamment l'un d'eux, un complotiste accompli. Que pense-t-il en effet que Mussolini n'est pas mort en 1945? Ça alors?
Remarquez que cette histoire de Mussolini qui n'est pas mort, c'est la seule invention personnelle de mon roman. Mm. Tout le reste est vérité historique. Donc j'ai seulement une petite partie des science-fictions, tout le reste est du Zola. Mm.
Alors Mussolini, voilà, du Zola. Mussolini donc n'est pas mort pour ce personnage en 1945. Et pourquoi ça? On pensait qu'il avait été fusillé, on avait vu son corps lynché. Il y a des photos qui attestent de ça. Mais non, dit votre personnage, ce n'est pas la vérité.
Non, vous voyez, je fais la représentation grotesque de comment on va construire un complot. Et pour construire un complot, avant tout, on emploie seulement des événements réels. Le seul problème est de mettre en contact des choses qui n'ont pas de relations et qui sont là par chance. Alors je suis parti du fait que mon personnage, Braggadocio, découvre, et c'est vrai, que Mussolini, en échappant de Milano pour essayer de rejoindre la Suisse, il est passé par Como, où il y avait là sa famille qui essayait de le rejoindre, il n'a pas voulu rencontrer la famille. Nous ne savons pas pourquoi ça. Peut-être il voulait rejoindre plus rapidement sa maîtresse, mais on ne sait pas. Alors s'il n'a pas voulu être vu par la famille, il n'était pas lui. C'était son sosie. Et alors on commence à élaborer tout. Et vous pouvez contrôler tous les le fait historique qui marche également bien si on imagine que c'était un sosie et que c'était un sosie qui a été fusillé parce que tout le monde qui a capturé, fusillé et arrêté Mussolini ne l'avait jamais vu personnellement, sinon très loin dans un balcon. Ouais. Et là, on commence à voir Mussolini exilé en Argentine, comme tout hiérarque nazi. Si ça n'est pas vraisemblable, aidé par le Vatican, qui dirige tous les complots réels de la politique italienne de 50 ans, voilà. De loin. Voilà.
Et qui vous permet de brosser justement une fresque politique.
Et qui me permet de visiter une phase politique de mon pays et d'autres pays, parce que certaines
c'est toute l'Europe
concernent la France, l'Espagne, la Belgique, etc., du point de vue, et les faits sont réels, seulement l'idée du complot.
Alors précisément, Umberto Eco, vous le rappelez bien, pour fabriquer un bon complot, il faut se baser sur la réalité. Ce qui est frappant dans Numéro Zéro, c'est que c'est très drôle, c'est très burlesque, c'est très rude avec la presse, hein, avec le journalisme et les journalistes. C'est un livre qui apparemment tranche avec vos livres précédents parce qu'il est plus court, parce qu'il est plus contemporain aussi, mais on retrouve votre topos préféré, qui est précisément le complot. On l'avait dans le cimetière de Prague, l'histoire du complot, avec les protocoles de sages de Sion fabriqués, hein, un texte fabriqué. On l'avait dans le pendule de Foucault, avec ce plan mondial. On l'avait aussi dans Le Nom de la Rose, puisqu'il y avait une forme de conspiration pour cacher un texte. Je voudrais savoir ce qui vous intéresse autant dans les complots et dans ce motif littéraire du complot.
Il y a des auteurs qui, au cours de leur vie littéraire, ne font rien d'autre que raconter de personnages qui font l'amour. Et moi, je raconte des personnages qui font des complots. Peut-être ils racontent des personnages qui font l'amour dans leurs livres, mais dans la vie, ils font des complots. Moi, je raconte des complots dans mes livres, mais dans la vie, je fais l'amour. Donc, il s'agit de vocation. D'un côté, il y a un côté éthique. J'appartiens à cette association qui, dans le pays anglo-saxon, s'appelle le Skeptical Inquirer, qui est contre toutes les fantaisies scientifiques, etc.
Une association, hein, c'est vraiment une sorte
de... Oui, qui a une revue et qui s'occupe de tous les en anglais, ce serait le hoax, les fables qu'on invente, même à propos de la science, du cancer, les soucoupes volants, le cercle dans le grain. Et c'est une mission éthique de démontrer aux gens qui sont des fantaisies. Et donc, puisque si vous ouvrez Internet, vous vous trouvez au milieu d'une quantité de complots, et les gens y croient parce qu'ils tombent très facilement dans les filets. Faudrait parler de la syndrome de complot comme paranoïa sociale, etc. Les gens ont besoin qu'il y ait un complot parce que sinon ils se sont eux-mêmes responsables de quelque...
Alors. Karl Popper, d'ailleurs, avait théorisé.
Voilà, je n'ai pas nommé Karl Popper parce que n'étant pas docteur, comme je ne voulais pas exagérer avec l'érudition. Mais oui, il a fait cet essai.
On n'exagère jamais avec l'érudition.
On a fait cet essai fondamental qui dit tout ce qu'il fallait dire sur l'attitude au complot comme déresponsabilisation de soi-même. C'est quelqu'un d'autre qui a fait tout ça. Alors, une motivation éthique. Un deuxième, j'étais intéressé toujours dans mes écrits académiques par le faux. Et le faux, c'est ma manière d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la vérité. C'est plus facile d'y arriver en analysant le faux qu'en analysant le soi-disant vrai. Alors vous mettez les deux choses ensemble et vous voyez pourquoi, en tant que narrateur, je ne peux raconter que de faux complots. J'étais toujours fasciné par le mensonge et toutes ces choses-là. Évidemment, je me suis répété, à mon âge, c'est le moment de m'arrêter. Je vous promets que je n'écrirai plus de romans comme ça. Vous ne serez plus obligé à relire des histoires de complot.
Vous disiez précisément que, au fond, le complot, le premier complot, ça remonte à l'Iliade, en fait.
C'est Popper qui le dit. Ouais. Mais Popper avait dit « Tout ce qui se passe à Troie » a été décidé par les dieux au sommet de l'Olympe. Voilà. Alors, il y a eu un complot qui a déjà décidé tout ce qui allait se passer.
Cela dit, dans l'Iliade, le complot, il est posé comme tel, puisque les déesses vont tenter Paris, Athéna dévie la lance.
Oui,
c'est tué. On a le complot, on le voit sous nos yeux.
Mais oui, mais la présence même d'un dieu est la garantie qu'il y a un complot.
D'accord.
Si vous étiez assez athée, même tout le christianisme se base sur un complot.
Alors, ça serait quoi le complot du christianisme?
Avant la création du monde, avant le truc d'Adam et Ève, tout. Il y a quelqu'un qui a décidé ce, de là, donc, la discussion sur les libres arbitres. C'est nous sommes dupes d'un complot des dieux où nous sommes libres. Il y a, la théologie, c'est un peu plus intelligente et variée que la, les théories du complot, mais.
Oui, plus intéressant. On va continuer à parler des complots avec vous, Umberto Eco, à propos de ce livre, ce roman hein, que vous publiez, numéro 0, chez Grasset. Vraiment acide, drôle, sérieux aussi, hélas, sur notre monde contemporain et la paranoïa ambiante. On continue d'en parler, mais d'abord, on écoute votre premier choix musical, Chopin, sonate numéro 2 en si bémol, par Vladimir Horowitz. C'était Chopin, sonate numéro 2 en si bémol par Vladimir Horowitz. C'est le premier choix musical d'Umberto Eco qui publie numéro 0, son nouveau roman chez Grasset dans une traduction de Jean-Noël Schifano. Pourquoi ce choix musical, Umberto Eco ?
Mais parce qu'à l'âge de 16 ans, Chopin a été ma première découverte de la musique classique. J'habitais dans une petite ville, il n'y avait pas de salle de concert. La radio donnait seulement un concert le vendredi soir, et parfois c'était de l'opéra et pas symphonique, et de petits morceaux par ici et par là qui faisaient faire beaucoup d'attention pour capter à 3h25 un petit morceau pour piano. Et la découverte de Chopin m'a foudroyé, et je commençais à faire des voyages, même nocturnes, pour aller à Turin, où il y avait le grand concert de la radio, et j'écoute toujours cette sonate. Peut-être, si je peux, je voudrais l'avoir à côté au moment de ma mort. Et vous m'avez donné une idée, je dois la mettre dans mon testament.
Ouais. Est-ce que la musique joue un rôle particulier dans votre écriture? Au moment où vous écrivez, par exemple, est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que vous écrivez avant?
Je dois dire que mon écriture a été inspiré beaucoup par de phénomènes non-verbaux. Ce n'est pas par hasard que je m'occupe de sémiotique et donc de tous les systèmes des signes, pas seulement du langage verbal. C'est-à-dire que beaucoup des techniques narratives, je les ai apprises par le cinéma, plus que par des autres romans. Et je dois dire que peut-être sans y penser trop, mais des faits musicaux, la partition d'un texte dans une ouverture minuetto, il joue un certain rôle sans que j'y pense beaucoup, parce que j'ai toujours joué quelques instruments dans ma vie. 6 ou 7 différentes.
Lesquelles c'était, ouais.
Mais non, j'ai commencé à jouer la trompette dans une bande musicale à l'âge de 13 ans. Je le raconte à la fin du pendule de Foucault. Mais après, j'ai fait 1 an de violoncelle par chance, 2 ans de piano. Et enfin, vers l'âge de 20 ans, je commençais à jouer régulièrement la flûte à bec, avec laquelle j'ai toujours jouer de la littérature sérieuse très mal. Ouais. Pas de la littérature.
Vous jouez de la littérature
pour amateur, mais de la littérature sérieuse, du Bach, du Telemann, mais mal.
Vous dites de la littérature pour la musique.
Oui, on parle de littérature.
Ouais, vous jouez de la littérature. Vous parliez du cinéma aussi, des techniques de cinéma que vous incorporez dans votre travail d'écrivain. Vous pensiez à quelle technique, par exemple ?
Le flashback, ouais. Par exemple. Ouais. Dans tous mes romans, il y a des jeux de flashback énormes. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris par le cinéma et à l'âge de, je sais pas, 12, 13 ans, par un roman très populaire d'un type qu'on a oublié, qui avait une structure à flashback, et j'avais découvert pour la première fois, on peut raconter comme ça, avec un pas en arrière.
Et c'est le cas d'ailleurs de Numéro Zéro, hein, puisque le flashback est de tout.
Mes histoires sont jouées là.
Alors, dans Numéro Zéro, je le disais, hein, qui vient de paraître chez Grasset, un livre très court, hein, pour un roman d'Umberto Eco, qui peut se lire comme une farce et qui en même temps dit des choses très très graves sur le monde contemporain. Je parlais de paranoïa ambiante. C'est votre livre d'ailleurs le plus contemporain. Vous dites que ce qui vous inquiète, c'est qu'on entre dans un monde sans mémoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est une de mes problèmes en ce moment. J'écris beaucoup d'articles. Les jeunes gens n'ont plus de mémoire historique. Je cite toujours comme un exemple fondamental, il y a une émission de quiz à la télévision italienne. Et il y a beaucoup de quiz différentes. L'un consiste à donner quatre dates, 1933, 1967, 1980, 2009. Voilà. Et après, on leur demande à différentes personnes quand il s'est passé ça. Alors, une fois, ils ont demandé quelle est la dernière fois qu'ils se sont rencontrés Hitler et Mussolini. Puisqu'on devrait savoir que Hitler et Mussolini sont morts en 1945, la seule date possible, c'était 1943. Personne n'a dit 1943. Quelqu'un est arrivé à dire 1968. C'est vrai, l'événement s'est passé il y a 70 ans. Mais j'en souviens, lorsque j'étais à l'école élémentaire, je savais assez bien ce qui s'est passé 70 ans avant. Mais ces phénomènes se répètent constamment. Et on vit dans un éternel présent. Je parle de la majorité, évidemment. Après, on rencontre, on travaille avec des étudiants qui sont très calés.
Qu'est-ce que vous voulez dire par « on vit dans un éternel présent » ? Vous parlez aussi parfois d'aplatissement du présent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Et si vous allez dans Internet, il n'y a pas de distinction entre un événement qui se passe aujourd'hui, un événement du passé. J'étais toujours touché aux années 50 ou 40, lorsque je voyais des bandes dessinées américaines où, si quelque chose se passait à l'époque romaine, ils étaient habillés comme des gentilshommes du XVIe siècle en France. Et on disait, oh tiens, les Amerlocs, ils n'ont pas de culture historique. Pour eux, le passé, c'est le passé en général. Même les bandes dessinées ont changé. On a fait des peplos avec les vêtements justes. Mais maintenant, ce que j'appelle la perte des mémoires, c'est comme on était dans cette période-là. Il n'y a pas de différence entre Néron et Louis XIV.
Et le journalisme est révélateur, hein, c'est le sujet de Numéro Zéro, de cet aplatissement du présent, de ce présent éternel.
Je ne dirais pas que c'est le journalisme.
En disant uniquement le présent compte, futur, ils écrivent même sur le
futur. Ça, c'est normal dans le journal de parler du présent et de donner les révocations
mais sans éclairage
historiques
du passé.
À la page 33.
Sans éclairage du passé, puisqu'il y a un de vos personnages, qui est cette jeune fille, qui, elle, voudrait faire réfléchir le lecteur, qui voudrait parfois se raccrocher à des éléments du passé.
Ah bon,
et le rédacteur en chef lui dit
nous ne sommes pas des intellos.
Exactement, voilà.
Oui, d'accord. Mais vous savez, la substance du roman, c'est plutôt au-delà du complot sur Mussolini, qui est l'invention centrale, c'est plutôt le mauvais journalisme. Quelqu'un a suggéré de donner ce livre dans les écoles de journalisme pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et c'était plus que 30 ans que j'écrivais sur les vices du journalisme, donc le roman est devenu un peu comme la traduction narrative de ce que j'avais écrit plusieurs fois.
Parce que précisément, dans la presse, vous écrivez sur la presse.
Oui.
Et sur les tics journalistiques, sur les malversations
J'ai toujours soutenu qu'il y a une qualité au moins positive des mass médias, que les mass médias peuvent parler et peuvent faire la critique des mass médias.
Alors il y a un passage extrêmement drôle dans votre roman, Umberto Eco. On a l'impression de se retrouver dans un épisode perverti de Rabelais. Vous vous souvenez, dans le quart livre, lorsque Pantagruel part à la recherche de l'oracle de la dive bouteille, il arrive dans une île où il découvre des paroles gelées, des glaçons qui fondent au contact des humains et qui libèrent des mots. Chez vous, Umberto Eco, on a l'impression que les mots ont été gelés par les hommes dans un sens qui n'est pas le leur. Typique, l'expression « être dans l'œil du cyclone ». Et le rédacteur en chef dit « tout le monde se trompe sur l'expression ». Être dans l'œil du cyclone, mais le lecteur, eh bien, c'est pas grave, on va lui continuer à lui servir cette mauvaise expression, ce mauvais sens, parce que c'est ce qu'il attend. Quel est le sens de ce passage autour de être dans l'œil du cyclone et de ces mots qui semblent avoir perdu leur sens?
C'est la dialectique entre deux paresses. C'est la paresse du lecteur qui veut entendre répéter ce qu'il sait déjà. Ce qui est une attitude très enfantine. Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, raconte-moi une histoire. Non, pas une nouvelle histoire, mais l'histoire que tu as racontée hier. Donc la répétition est fondamentale. Je suis en train de jouer beaucoup avec ma dernière petite fille qui a 15 mois. Elle invente un geste. Il faut le répéter 250 fois parce que c'est ça.
Et là, Umberto Eco tire la langue, vous ne la voyez pas.
C'est ça qui l'amuse. Et la paresse du journaliste, parce que enfin il n'est pas obligé à feuilleter les dictionnaires des synonymes, il se trouve des clichés. Alors il nage dans le poncif. Et j'ai fait une collection, évidemment, de clichés. Et vous savez, je faisais des classes dans un master en communication et j'ai donné aux étudiants raconter une histoire mais employant seulement des clichés. Ils ont raconté des histoires très belles. Donc j'avais une quantité de clichés énorme à ma disposition.
Ah, vous faites travailler vos étudiants comme ça pour vos romans?
Non, ça s'est passé il y a 20 ans. Mais j'étais même capable à trouver les mêmes clichés. Ils ont été bien à employer les clichés à l'intérieur d'une nouvelle histoire.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Et donc, même mes amis journalistes de journaux, disons entre guillemets, très sérieux, ont dit oui, ça ne se passe pas dans le mauvais journal, mais aussi chez nous.
Alors précisément, rappelons, hein, puisque le passage concerne cette expression, être dans l'œil du cyclone, qui est normalement, qui traduit un état de sérénité, de tranquillité.
De calme,
l'œil du cyclone étant, voilà, sauf que pour tout le monde, être dans l'œil du cyclone, c'est au cœur de la tempête. Alors précisément, Umberto Eco, je me suis demandé, en lisant votre livre, si on n'assistait pas à l'éclosion d'une nouvelle maladie, les mots perdent-ils leur sens, comme certains arbres perdent mystérieusement leurs feuilles?
Oui, mais ça c'est un phénomène linguistique général, éternel, au cours de l'histoire d'une langue, les mots qui ont été usagés trop perdent leur sens et ils en prennent des autres. Par exemple, en Italie, on dit pour une situation de confusion, faire du casino, qui serait plus ou moins comme faire du bordel. Ben, le casino était une maison de tolérance. Ben, tout le monde a oublié que c'était ça. Il est resté, même un évêque pourrait dire, ne faites pas du casino.
C'est la traduction en française de faire le bordel.
Faire le bordel. Ouais, personne ne pense plus que le bordel, c'était celui des boules de suif.
Oui, de Maupassant. Ouais.
Donc, c'est normal dans la vie que la presse ou la télévision accélère ces procès. Évidemment, c'est vrai, parce qu'il bat chaque jour, chaque semaine, en répétissant les clichés. Parfois, je vous fais un exemple. Mussolini, en parlant de l'invasion des Alliés en Italie, qui était attendue, il a dit « on va les tuer tous sur le Bagnasciuga ». Il voulait dire sur la plage, là où l'eau touche la reine. Ça ne s'appelle pas Bagnasciuga, ça s'appelle Battigia. Le Bagnasciuga, au contraire, c'est la place où l'eau va toucher le côté d'un navire. Mais depuis ça, tout le monde a dit Bagnasciuga pour la plage. Voilà. Il a suffi d'une seule erreur, mais célèbre pour changer beaucoup d'usages linguistiques.
Le sémiologue que vous êtes connaît évidemment l'importance des mots. Pourquoi est-ce que le mot « vérité » semble, quand on vous lit, de plus en plus inutilisable, parce que toujours la vérité est sujette à caution? On ne sait plus ce qu'elle est. Est-ce que le mot « vérité » va devenir finalement un mot qu'on ne peut plus utiliser?
Pour un philosophe, le mot « vérité », c'est toujours un mot qui pose des problèmes. Parce que si on savait toujours qu'est-ce que c'est que la vérité, il n'y aurait plus de philosophie et de réflexion.
C'est « aletheia ».
Voilà,
le dévoilement.
Oui, mais vous savez, le mot « vérité », il y a une différence énorme entre la vérité de la proposition « nous sommes en ce moment en train de parler à un micro » et la proposition « Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Entre la proposition « l'eau bouille à 100 degrés » et la proposition « la distance de la Lune de la Terre est telle et telle telle ». La première proposition est peut-être contrôlable immédiatement, l'autre peut être révisé demain. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, a l'air d'être une proposition vraie, mais demain on pourrait découvrir des documents inédits de l'admiralat anglais et découvrir qu'il s'était passé quelque chose de différent. Donc il y a des degrés de vérité. Que j'ai 5 doigts, oui.
Oui, mais à partir du moment où chacun se fait sa vérité, comme Bragadoccio, comme votre personnage. C'est le cas d'aujourd'hui. Vous parliez des hoax sur Internet. Chacun, aujourd'hui, a sa vérité. C'est une vérité portable, finalement. Portative, individuelle.
Ça, c'est le risque. Oui. Écoutez, je suis un réaliste. Je crois qu'il y a une façon où les choses vont, se déroulent. Mais ce n'est pas dit que nous sommes capables toujours de savoir comment les choses se passent. Les choses se passent d'une certaine manière. Et sur ça, je suis absolument sûr. Parfois, il est difficile de comprendre quelle est la manière. Et je crois qu'une des façons de comprendre quelle est la manière est passer à travers le mensonge, le faux, la manipulation, parce que c'est très facile de dire que quelque chose est faux. Et c'est plus difficile de dire que quelque chose est vrai.
Oui, mais précisément, Umberto Eco, sans dévoiler du tout la fin de votre roman, on va laisser les lecteurs le découvrir, mais vous suggérez que ce personnage, Bragadoccio, qui se fait ses propres vérités, finalement, il a presque raison. Il se trouve qu'il a presque raison. Les faits lui donnent un reportage de la BBC dont vous parlez dans votre livre. Finalement, met en doute le lecteur en se disant, ce complotiste, finalement, il avait peut-être raison. Alors je me suis dit,
non, il a tort.
Pourquoi vous, le théoricien de lector in fabula, de la réception du rôle du lecteur dans l'appropriation d'une histoire, pourquoi est-ce qu'il met le lecteur dans une situation aussi intenable, insupportable?
Mais vous voyez, Bragadoccio a raison dans le sens que tous les faits dont il parle sont vrais et ils sont confirmés par l'émission de la BBC.
Oui, mais ses interlocuteurs trouvaient qu'il racontait n'importe quoi. Et finalement, il se trouve qu'il a
pas ça, c'est la ruse.
La ruse d'Umberto Eco.
D'Umberto Eco, si vous voulez, mais du constructeur du complot. Tous les éléments sont vrais sauf une connexion. Alors, Bragadoccio emploie des éléments vrais et il les organise à la lumière de l'idée que Mussolini n'a pas été fusillé. Ouais. Ce qui n'est pas vrai.
Mais ça, c'est né comment,
cette histoire? Au moins, on n'a jamais démontré le contraire.
Mais il est né comment, ce personnage-là? Il a des référents dans la réalité? Comment vous avez pu inventer ce personnage qui finit?
Je n'ai rien inventé. Ouais. Le monde est plein de personnages comme ça.
Ouais. Est arrivé?
Allez sur Internet.
Ça vous est arrivé de rencontrer
des personnes? Même des personnes sérieuses, qu'on considère cultivées et de bon sens, sont capables parfois d'élaborer des explications qui ne sont pas économiques. L'explication la plus économique est « ça s'est passé par chance ». Mais elle est décevante. On a besoin qu'il y ait un dessin,
Et ça vous est arrivé de vous retrouver dans une situation exposée à un Bragadoccio ou
très souvent.
Par exemple?
par exemple, des choses comme ça. Je vous dis, allez sur Internet, allez voir les démonstrations qu'ils donnent du complot juif pour faire tomber les Twin Towers. Il prend un billet de $50, il le replie d'une certaine façon comme un truc japonais, et ils font voir qu'il y a les deux tours. Et donc, déjà, dans le dollar, où il y a des symboles maçonniques et juifs, on prévoyait la chute des tours.
Donc, pour le romancier, c'est une véritable mine d'or, le
coup. Ah oui, évidemment. Et Dan Brown vit sur ça.
Dan Brown,
j'écris des romans pour démontrer que c'est de l'ordure. Et lui, il a pris tout au sérieux. C'est-à-dire que lorsqu'on se rencontrait, je l'ai salué comme un personnage de mes romans.
Merci Umberto Eco. On continue à cette discussion autour du complotisme et de votre nouveau roman, numéro 0, qui paraît chez Grasset. Mais d'abord, on écoute votre second choix musical, La fourmi, de Juliette Gréco.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi pas?
Alors, Umberto Eco, c'était votre second choix musical, La fourmi de Juliette Gréco. Pourquoi ce choix?
Bon, avant tout, parce que j'ai toujours adoré Juliette Gréco, donc j'aurais pu mettre Edith Piaf, mais aussi parce que le texte est écrit par Queneau. Et moi, je traduis en italien les exercices de style de Queneau, donc c'est un auteur que j'aime. Après, c'est une chanson très, très facile, et j'adore le geste final de Juliette Gréco à la fin de la chanson. Et voilà.
Vous pourriez faire le geste final, là, pour les
pourquoi,
auditeurs?
Pourquoi pas?
Voilà, le bras qui laisse échapper, voilà. Merci beaucoup pour ce choix. Je reviens à numéro 0 et à ce personnage qui me touche beaucoup, cette jeune femme qui se trouve là un peu par hasard, qui est vraiment sincèrement une journaliste, qui a envie de faire réfléchir le lecteur et qui se voit traitée d'intellectuelle comme si c'était une insulte. Cette mise en cause des intellectuels, parfois même jusqu'au sommet du pouvoir, on a eu un exemple très récemment en France, est-elle une chose qui surprend l'intellectuel que vous êtes?
Non, parce que l'intellectuel que je suis connaît l'histoire des intellectuels. Lorsque le mot a été forgé, vous savez, pendant l'affaire Dreyfus, lorsque des gens qui s'appelaient Proust, ou je ne me souviens plus, Monet, là, avaient signé pour Dreyfus, et je ne me souviens plus qui, a écrit un article contre ce intello, intellectuel, et il employait le mot pour la première fois, et il est resté comme une marque qui caractérise les réactionnaires et les conservateurs de toute époque. On discute toujours si c'était Göring ou Himmler qui disait « si quelqu'un parle de culture, je tire le pistolet ».
Je sors le pistolet.
Le vice-président américain Spiro Agnew parlait des intellectuels comme des « effete snobs ».
Oui, comment on traduit ça?
Des tapettes snobs.
Oui, c'est ça, des tapettes snobs, donc avec un mépris, y compris sexuel, quoi.
Oui, mépris, voilà. Ça va toujours, les intellectuels. Lorsqu'il y a le mépris pour les intellectuels, ils sont toujours un peu efféminés, etc. Mais encore récemment, la droite italienne a toujours ce mépris pour les intellectuels. Pour quelle raison? Parce que les intellectuels, même quand ils sont de mauvais intellectuels, bon, il y en a un bon pourcentage, ils font toujours des critiques. Et donc, ce sont quelqu'un qui casse les pieds au pouvoir. Voilà, la haine pour les intellectuels.
Alors, bien sûr, donc phénomène ancien. Il n'empêche que, il n'y a pas très longtemps, un ministre du gouvernement Berlusconi avait dit que avec la culture, on ne mange pas.
On ne mange pas. Et donc, on a diminué la somme pour certaines activités culturelles.
Est-ce que vous pensez que... et puis Berlusconi, qui avait dit qu'il n'avait pas lu de roman depuis 20 ans, d'ailleurs, on s'en aperçoit...
Il l'a dit il y a 20 ans, donc désormais, ça fait 40 ans.
Ça fait 40 ans.
Échange, il achetait beaucoup de maisons d'édition et comme ça, il n'a pas... C'est comme moi que j'ai épousé une Allemande, et que ça a justifié le fait que je ne parle pas l'allemand.
D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, plus que peut-être à l'époque de l'affaire Dreyfus, au fond, est-ce que des menaces, vous trouvez, pèsent sur la culture? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle crise de la culture aujourd'hui?
Non, pas particulièrement.
En France, par exemple, l'éradication des langues anciennes, de l'enseignement du latin et du grec. Je pensais à la citation que je viens de faire de ce ministre qui dit qu'avec la culture, on ne mange pas. Je pensais aux menaces sur les budgets en général. Je pensais à la rentabilité, la notion d'immédiateté, la conduire avec le passé.
Toute l'histoire a dû faire les comptes avec la culture. Vous vous souvenez, au 19e, ici en France, la loi Riancet, qui empêchait de publier des feuilletons dans le roman, parce que le feuilleton, après Sue, était devenu des formes de critique sociale. Donc il y a eu toujours, sans arriver aux nazis qui ont brûlé les livres, ou à Staline. Donc, ça a été constante, une menace à la culture lorsqu'elle paraissait devenir un peu embarrassante. Donc, en ce moment, oui, on va couper, on va abolir le latin, mais en même temps, nous sommes dans une ville où on vit sur la culture, on a des activités culturelles continuelles. Donc, je voudrais dire que c'est une dialectique où la culture en sort toujours sans être détruite.
Vous ne pensez pas que la coupure avec le...
On écrivait même dans les camps de concentration.
Bien sûr. Vous ne pensez pas qu'il y a une menace qui pèse sur la relation que nous avions avec notre passé, par exemple, avec justement ces humanités. Vous parliez d'immédiateté, de dictature du présent.
Je parlais de la perte de la mémoire. Oui. Ce n'est pas un phénomène organisé, comme la censure, etc.
Non, c'est peut-être pour ça que c'est plus dangereux.
C'est plus dangereux, mais alors on ne parle pas des menaces... à la culture qui vient de quelque part, sinon on tombe dans le complotisme, sinon on tombe. Mais dans des situations générales, nous sommes dans ce que Zygmunt Bauman a commencé à appeler la société liquide. Plus de points de repère, plus de communautés, plus d'autorités auxquelles faire refaire, donc plus de partis, de subjectivités flottantes. Ça c'est très lié à la perte de la mémoire, parce que c'est une perte d'identité. La seule identité est donnée aujourd'hui par le fait de paraître quelque part. Tout imbécile rêve de paraître à la télévision, peut-être maintenant en agitant sa main derrière le caméraman, parce que c'est sa seule façon de s'identifier. Le seul stade du miroir aujourd'hui, c'est paraître de quelque façon. Et ça, c'est la tragédie qui ne dépend pas d'un plan. Autrement, on ferait la théorie du complot.
Bien sûr, mais il y a quand même des décisions gouvernementales. Vous avez peut-être suivi les débats en France sur de nombreux intellectuels, de droite comme de gauche, qui se sont insurgés contre la fin des humanités, la fin du latin et du grec. Ils ont été traités de pseudo-intellectuels par leur ministre. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de supprimer justement cet accès à ce passé, à cette langue, à ces langues dites mortes ou anciennes, qui étaient le grec et le latin? Vous qui nous avez immergés dans le grec et le latin grâce à vos romans.
Évidemment, je le pense. Et je suis très heureux que mon petit-fils, le plus grand, qui étudie à Rome dans une école française, qui est le Chateaubriand, une école excellente.
Le lycée français,
Là, il a eu la possibilité de choisir le latin et le grec.
Ça contribue à quoi, le latin et le grec?
Je crois avant tout à une connaissance du passé, avoir le sens de l'histoire. Après, quelqu'un a dit, en étudiant la syntaxe latine, on découvre des lois qui ne sont pas celles de notre langue. Quelqu'un a répondu, mais alors il suffit d'étudier la grammaire transformationnelle de Chomsky contemporaine. Mais étudier des autres langues signifie mettre en comparaison des mentalités différentes. Alors il serait déjà suffisant d'étudier l'italien et le français et l'allemand. OK. Mais puisqu'il y a plus de différence entre le français d'aujourd'hui et le latin qu'entre le français d'aujourd'hui et l'allemand, bien qu'il paraît le contraire, mais la mentalité, les structures syntaxiques sont profondément différentes, plus la langue est loin, plus on apprend des différences et donc la pluralité des langues. On étudie le latin et le grec parce qu'il serait plus difficile d'étudier l'égyptien et le sumérien. Mais sinon, on pourrait passer à des autres langues.
D'accord, donc vous êtes plutôt pour le développement de ces langues-là.
Après, il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Que si nous étions bouddhistes ou musulmans de l'Indonésie, nous n'aurions pas tellement besoin de tout ça. Mais toute notre façon de penser est fondée sur la philosophie, la littérature, le droit latin, la philosophie grecque, on n'y échappe pas. Donc c'est une façon de trouver ses propres racines. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant d'aimer sa propre sœur, il faut aimer aussi sa propre grand-mère.
Très bien, c'est très bien dit.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Vous avez publié, Umberto Eco, en 2009, un livre avec Jean-Claude Carrière qui s'intitulait « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Le titre lui-même semblait indiquer que certains avaient l'intention de le faire. Qu'est-ce qui vous permet d'asséner, comme vous le faites, qu'on ne pourra pas se débarrasser des livres?
Ce titre exprimait même une espèce d'irritation parce que on est continuellement obsédé par des gens qui vous demandent « Mais vous croyez que les livres vont disparaître ?» Il suffit d'aller au FNAC, voir combien de livres il y a, combien de jeunes sont là à feuilleter. Donc. D'ailleurs, je serais heureux que les livres disparaissent. Comme ça, ma bibliothèque deviendrait quelque chose de très précieux dans l'antiquariage.
Dans l'antiquariage,
pourraient devenir milliardaires. Ouais, voilà.
Ouais. Non, mais vous dites que le livre est un objet parfait.
Le livre est un objet parfait qu'on ne peut pas modifier.
Il n'est pas daté, il n'est pas trop vieux.
Non, c'est comme la fourchette, le couteau et le marteau. Il y a beaucoup de designers danois qui ont essayé de changer la forme d'une fourchette, mais la fourchette est toujours comme ça. Et le livre est également comme ça. Il est ergonomique, il a justement la forme pour être tenu dans la main, etc. C'est plus difficile de garder dans la main un iPad d'un livre. Et nous avons la preuve scientifique qu'un livre dure 500 ans. Parce qu'ils sont là. Ils semblent imprimé hier avec du papier fabuleux. Nous n'avons aucune preuve scientifique qu'un USB ou une cassette dure 50 ans. Vous ne pouvez pas le savoir parce que si vous aviez aux années 80 des floppy disks, vous n'avez pas aujourd'hui un ordinateur capable de lire ce floppy disk. Donc vous ne savez pas si ça dure.
Oui, on est obligé de réenregistrer nos fichiers sur d'autres supports en permanence.
Oui, mais si vous ne l'avez pas fait,
voilà, c'est fini.
C'est fini. Hein? Et donc, en face de deux objets, l'un qui a l'air d'être éternel, l'autre qui a l'air d'être très périssable, pourquoi je dois choisir l'objet périssable? Bien que j'emploie l'ordinateur tous les jours, évidemment, mais j'imprime.
Merci Umberto Eco, on va continuer avec vous. On écoute votre troisième et dernier choix musical, sonate numéro 2 pour violoncelle de Bach.
Thank you.
ce dernier choix,
Bach? Je vous avais dit avant que depuis mes 20 ans, j'avais commencé à jouer de la flûte à bec. Et dès que je suis passé de plus en plus à des partitions importantes, cette sonate de Bach m'a toujours... Je l'ai jouée plusieurs fois, toujours très mal, je l'ai joué très, très, très souvent. C'est un exercice fondamental et je l'aime beaucoup.
Alors, il y a quelques temps, c'était en 2013, donc il y a deux ans, à peine, vous aviez publié Confession d'un jeune romancier. Est-ce qu'il faut comprendre, vous aviez à l'époque 81 ans, que vous en êtes encore à vos débuts de romancier?
Mais non, l'histoire était la suivante. C'était des conférences que j'avais faites en Amérique. 2008 ou 2009, je ne reviens plus. Et je me définissais un jeune romancier parce que j'avais commencé à publier mon premier roman vers les 50 ans. Donc, c'était à l'époque 30 ans, j'étais un romancier des 30 ans. Voilà.
Oui, enfin 30 ans, c'est déjà... Est-ce qu'on est encore un jeune romancier quand on a 30 ans de métier?
Aujourd'hui, il y a autant de Balzac, une femme des 30 ans, c'était déjà jeté dans la poubelle. Mais aujourd'hui, il se tutoie, les gens de 50 ans, lorsqu'ils se rencontrent.
Oui, c'est ça. Il faut 30 ans pour faire pour faire un vrai romancier?
Non, Radiguet a commencé avant.
Voilà, vous voyez.
Alors, moi, je suis très lente.
Ouais. Quel regard vous portez sur ce...
J'ai toujours eu une loi dans ma vie. Ouais. Il ne faut jamais vouloir devenir général si on n'a été pas avant sergent.
Et là, vous estimez à quel niveau? Sur l'échelle des romanciers.
Si je suis l'hôte de votre mission, je suis un général de corps d'armée.
Quel regard vous portez sur ce premier roman qui était Le Nom de la Rose, donc 1982 pour la traduction.
80, enfin, la première édition.
Et 82 pour la France. C'était aussi d'ailleurs Jean-Noël Schifano qui l'avait traduite. Quel regard vous portez sur ce roman aujourd'hui? Quel est le roman vraiment qui vous a propulsé planétairement?
Et oui, un regard des nuits. Parce que c'est là. On reste figé au premier roman de succès. Je crois que ça a été la vie aussi de mon ami Gabriel Garcia Marquez. Après les 100 ans de solitude, il a écrit des choses très belles, mais il est resté l'homme de ce roman-là. On en sort. Et c'est un accident.
Ouais. Vous pensez-vous que c'est votre roman le plus important?
Non.
Non.
Ouais. Si. Oui, ce sont des jeux stupides comme celui-là qui vous jetait de la tour. Mais si on me demandait lequel de mes 7 romans sauvés et seulement un, je choisirais le Pendule de Foucault.
Ah et pourquoi?
Parce que tous les autres m'ont pris 6 ans chacun et le Pendule 8 ans. Donc il y avait plus de travail, plus de réflexion, plus de moi-même, j'oserais dire.
Et donc, si je vous repose la question, quel regard vous jetez sur ce Nom de la Rose, non pas sur le succès de ce livre, mais sur le roman, sur ce texte?
Oh bon, m'étais amusé beaucoup à l'écrire.
C'est pas plus que ça.
Non, je suis affectionné parce que c'est pas par hasard qu'en décidant d'écrire un roman, je suis tombé sur le Moyen-Âge, parce que c'était depuis mes années d'université que je m'occupais du Moyen-Âge. Donc, je répète toujours une histoire lorsqu'à la campagne, on allumait de feux, de feuilles secs, il y avait des étincelles. Et ma femme disait, regarde ces étincelles, moi, comme Monsieur Hulot, un coquillage, non? Je n'y faisais pas attention. Et après, ma femme lit le roman, la scène de l'incendie, et dit, alors tu avais vu les étincelles? Non, je dis, moi non, mais je savais comment un moine du Moyen-Âge pouvait le voir.
Évidemment, au cœur de ce roman, vous nous avez fait rêver avec cette immense bibliothèque que vous décrivez, qui est une bibliothèque assez étrange, puisqu'elle se divise en plusieurs zones, avec Fons Adae, le paradis terrestre, où on trouve des bibles, des commentaires de la Bible, des livres d'écriture sainte. Il y a la partie Hibernia où on trouve les ouvrages de la
Irlandais.
Des auteurs, voilà, Thulé, ce qu'on appelait Thulé, hein, le continent du Nord, mais aussi les grammairiens et les rhéteurs qui étaient dans cette partie-là. Et puis il y avait la partie Léonès, Midi, l'Afrique, avec les textes des musulmans, Hispania, les recueils de l'Apocalypse. Il y avait d'autres ensembles aussi que vous énumériez, mais ce qui est très étrange dans cette bibliothèque, c'est qu'il n'y a aucune mixité en fait entre ces zones. C'est une bibliothèque finalement qui ne permet pas la communication entre les livres, alors qu'on pense que la bibliothèque non seulement réunit la totalité des connaissances, mais donne accès à des passerelles. Pourquoi vous avez voulu concevoir une bibliothèque qui soit au fond comme un cauchemar pour un humaniste ?
Évidemment, ma bibliothèque du nom de la Rose sert à cacher les livres. Donc c'est une bibliothèque censure. C'est exprès que dans le nom de la Rose, la bibliothèque sert à cacher, à protéger jusqu'à la névrose des livres. Et donc, il fallait qu'on pouvait pas s'y promener d'une façon facile, de là les labyrinthes, de là la difficulté. Enfin, évidemment, j'ai commencé à passer une bibliothèque comme ça, sous l'influence de la bibliothèque de Jorge Luis
de Borges. Oui, mais comment est née cette idée d'une bibliothèque cauchemardesque, justement, d'une bibliothèque qui sert à cacher les livres, cette anti-bibliothèque ? Ça venait de la cheminée aussi, parce que vous dites souvent qu'un roman, un bon roman, procède d'une image matricielle.
Oui.
C'est une image.
Oui. L'image du nom de la Rose, c'était un lutrin ou un moine lisé et tombé mort en lisant ce livre.
Ouais.
Ça s'est passé dans l'abbaye de Subiaco que j'avais visité à 16 ans et j'avais vu ce lutrin comme ça. J'avais commencé, non à penser au roman, mais lorsque j'ai commencé à penser au roman, je pensais à ce lutrin et à cette librairie. Pourquoi m'est venue l'idée de la bibliothèque ? J'en souviens plus exactement. Les idées me viennent quand je nage, dans la mer ou dans une piscine. À la mer, c'est plus intéressant, il y a des idées meilleures. Mais j'en souviens plus à l'époque dans quelle mer ou piscine je nageais.
Ah oui, dans la mer, les idées sont meilleures que dans la piscine.
Oui,
c'est bon à savoir.
Et oui, parce qu'il y a un parcours plus riche et un panorama plus. Sauf maintenant la piscine que j'ai dans ma maison de campagne qui donne sur une vallée énorme. Donc ça me donne beaucoup
d'idées.
Comme si j'étais à la mer.
Dans Confession d'un jeune romancier, vous vous interrogiez sur le fait que, bizarrement, il semble qu'on est plus bouleversé par la mort d'Anna Karénine, un personnage de fiction, que par des civils bombardés qu'on voit dans un journal télévisé. Est-ce que vous pensez que c'est toujours vrai, cette observation-là ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'obsession du réel a peut-être gagné sur la fiction ?
Non, non. Les gens s'en fichent du réel. Mes petits-fils, lorsqu'ils auront 20 ans, ils auront complètement oublié les égorgements faits en Irak par l'ISIS, mais ils n'auront pas oublié, j'espère, la mort d'Hamlet. Donc la littérature sert à constituer et à maintenir des images mythiques qui continuent à survivre, tandis que la réalité, on l'oublie. Mais même mon roman, il raconte de faits incroyables qui se sont passés au long de l'histoire européenne. Les gens ont oublié tout.
Et
ils auraient dû se suicider en face de tout ça. Au contraire, on a continué à faire...
Et qu'est-ce qui fait cette supériorité, finalement, mémorielle de la mort d'Hamlet ou de la mort d'Anna Karénine ? Qu'est-ce qui fait la supériorité de la fiction sur le réel ?
La supériorité est qu'il y a des négationnistes qui peuvent essayer de démontrer que les nazis n'ont pas tué 6 millions de juifs. Mais aucun négationniste peut nier qu'Anna Karénine est morte sous un train. Donc la vérité romanesque a cette qualité de ne pouvoir être mise en cause, tandis que toutes les autres vérités peuvent, et c'est le rôle de l'histoire évidemment, être mises en cause. Donc dans les confessions d'un
romancier,
j'ai dit à un certain point que le critère romanesque est une espèce de preuve scientifique de la vérité. Une chose est vraie si elle est vraie comme l'assertion que Superman est Clark Kent. Et même les papes et les Dalai Lama sont obligés à être d'accord sur ça, tandis qu'ils ne sont pas d'accord sur des autres vérités.
Merci beaucoup Umberto Eco. Pour terminer, j'aimerais vous poser trois questions et vous demander des réponses très courtes, des réponses de sémiologue. Comment vous définiriez, vous, le sémiologue ou le sémioticien, la culture ? Qu'est-ce que c'est, la culture ?
La culture, avec la C majuscule, est employée normalement pour dire, pour indiquer la connaissance de la science, de la littérature, etc. La culture, avec la C minuscule, c'est un concept de l'anthropologie culturelle. Et ça signifie l'ensemble d'opinions, croyances, habitudes, rites d'une certaine communauté. J'en souviens que des gens sans culture anthropologique, une fois que j'avais écrit la culture du terrorisme, vous croyez que le terrorisme est en fait de culture. Je l'employais dans le sens à la Lévi-Strauss et pas dans le sens d'une culture supérieure. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas complètement compris cette différence fondamentale. Il s'agit d'un fait de synonymie.
Et quelle définition vous donneriez à la littérature ?
Disons une forme d'écriture par amour de soi-même.
C'est pas mal. Il y a certainement des jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous auriez, professore, un conseil à leur donner pour affronter l'époque compliquée dans laquelle ils vivent ?
Lisez.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ça prolonge votre vie ? Il y a l'illettré, l'analphabète, lorsqu'il mourra, il aura vécu 70 ans, 80, il se souviendra des souvenirs personnels. Moi, lorsque je vais mourir, j'aurai été présent à l'assassinat de Jules César, à la bataille de Waterloo, à la mort d'Anne Karénine, un tas de choses, donc j'aurai vécu des mille. C'est un moyen de prolonger sa propre vie.
Merci
Après,
beaucoup.
Il y a les jeunes écrivains qui demandent un conseil pour écrire. Et je réponds, n'écrivez pas, téléphonez.
Très bien. Merci infiniment, Umberto Eco, pour cette heure que nous avons passée ensemble. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Numéro 0, qui paraît chez Grasset, traduit par Jean-Noël Schifano, une histoire de complot, une histoire d'époque, une farce et en même temps quelque chose de très sérieux. On rit beaucoup, on s'inquiète aussi énormément de ce que ce monde est en train de devenir. En tout cas, voilà, on reconnaît vos... On paie hommage, si je puis dire, à vos talents de satiriste brûlant. Merci infiniment. À bientôt, j'espère. Donc il n'y aura pas de prochain roman, ça on a compris. Hein,
Mais
un prochain essai. J'espère qu'il y aura encore aussi des romans. Merci beaucoup. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Isabelle Huel et Laurent César à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, Twitter, vous pouvez podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours cette émission Umberto Eco sur franceculture.fr. Pendant 1000 jours, c'est fabuleux.
Ah oui, on peut mourir.
Dans un instant, le journal de 18h. Et à 18h20, l'émission d'Étienne Klein, la conversation scientifique. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi pour le temps des libraires à 10h55. Au revoir Umberto Eco.
Au revoir.